BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui fait bourgeonner vos placements, même un 30 janvier. Bienvenue à tous. On va essayer de vous apporter des clés, en effet, pour faire fructifier vos investissements, vous apporter un coup d'avance grâce à l'analyse et aux différents choix d'investissement de nos experts. On est à vos côtés jusqu'à 18h. Le CAC 40 est en toute petite baisse actuellement, avant une semaine probablement décisive. Cette semaine boursière constituera l'étape reine de ce début d'année en bourse. Trois cols hors catégorie à franchir cette semaine. Les banques centrales, la Fed et la BCE annonceront leurs décisions de politique monétaire. Les publications américaines aussi. Une centaine d'entreprises du S&P vont annoncer leurs résultats, parmi lesquelles 4 GAFAM. Ce sera à suivre notamment mercredi et jeudi. Et puis cet autre col hors catégorie en fin de semaine, le rapport sur l'emploi américain. La semaine vraiment la plus décisive de ce début d'année est en train de s'ouvrir avec en plus cerise sur le gâteau, la réouverture des marchés chinois après les fêtes du nouvel an lunaire. La cerise sur le gâteau, le litchi sur le gâteau en quelque sorte. On va parler aussi de ces perspectives liées à la réouverture de l'économie chinoise. Donc des idées d'investissement bien sûr pour essayer de traduire les différents enjeux auxquels les marchés vont être confrontés dans les prochaines semaines. On parlera valeurs, entreprises et sociétés à privilégier pour vos portefeuilles boursiers. Et vous allez voir que les statistiques jouent quand même en notre faveur. On est en train de vivre un super mois de janvier. Le CAC 40, depuis le 1er janvier, a gagné 9%. Le S&P 500 aussi progresse depuis le début de l'année et ça tombe bien. 89% du temps, le S&P 500 termine le mois de janvier en positif. Eh bien, on a le droit à une année positive ensuite avec une performance moyenne de 20%. Alors voilà, ça ne garantit rien, mais les statistiques plaident en faveur d'une année potentiellement extrêmement prometteuse. On va aussi en parler avec nos intervenants. Les cryptos, à partir de 16h35, notre club BFM Crypto, on va regarder comment se porte l'écosystème crypto américain. On sera en direct de San Francisco. On était à Hong Kong, tiens, tout à l'heure avec Hervé Dievor. On sera à San Francisco tout à l'heure avec Cyril Paglino pour The Shift Capital. Il est investisseur dans l'univers des cryptos et il est en train de prendre le pouls de l'écosystème en ce moment aux États-Unis. Il sera avec nous aux alentours de 16h35. On parlera aussi avec lui de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui commence à pointer le bout de son nez auprès du grand public. Et il nous expliquera que ChatGPT est en train d'entraîner une course et des valorisations sur les boîtes, y compris dans le Web3, de plus en plus stratosphériques. On en parlera donc ensemble en direct. Et puis on n'oublie pas, bien évidemment, l'investissement en immobilier et Paris, qui reste la ville la plus prisée des plus grandes fortunes mondiales. Les experts de Barnes nous accompagnent cet après-midi pour en parler. Vous le voyez, on varie les sujets, beaucoup de thématiques d'investissement aujourd'hui encore. On est à vos côtés pour encore 2 heures jusqu'à 18h. Et tout de suite, on va aussi parcourir le reste de l'actualité. En direct, Faiza nous rejoint, Faiza Younzi, en démarrant bien sûr par la réforme des retraites en France.
BFM Business, l'info éco.
Il y aura un instituteur sur deux en grève demain pour la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, prévient le syndicat SNUIPP, un mouvement qui devrait être très suivi également dans les transports, notamment à Paris, où seules les lignes de métro 1 et 14 fonctionneront normalement. Le projet de réforme est arrivé à l'Assemblée nationale. Le texte a commencé à être débattu, mais Elisabeth Borne prévient. Elle ne reculera pas devant le recul de l'âge de départ à 64 ans. Ce n'est plus négociable, a affirmé la Première ministre. Dans l'actualité des entreprises, Renault qui chute en bourse, le titre est en train de perdre 4% après avoir conclu un accord avec Nissan sur l'avenir de l'alliance. Le constructeur français va réduire sa participation dans le groupe japonais à 15% contre 43% aujourd'hui. La révision du périmètre de leur union a été négociée depuis plusieurs mois. Nissan, de son côté, va également investir dans la nouvelle filiale 100% électrique de Renault Ampère. Philips supprime 6000 postes supplémentaires dans le monde suite au rappel de ses appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil. Un rappel et qui a plombé les comptes du groupe l'an dernier. Ce nouveau plan de licenciement s'ajoute à celui qui avait déjà été annoncé en octobre dernier et qui prévoyait déjà 4000 suppressions d'emplois. Autre plan social, cette fois-ci, de la plateforme de livraison espagnole Glovo, qui va licencier 250 personnes. Ça représente 6% de ses effectifs. C'est le siège d'entreprise à Barcelone qui sera surtout concerné. Glovo se dit plombé par les difficultés du secteur dans un contexte de grande incertitude économique. Dans l'aérien, bénéfice record pour Ryanair qui dépasse ses attentes, 211 millions d'euros pour son dernier trimestre 2022. La compagnie low cost profite de la très forte reprise de la demande après avoir battu des records de réservations en début d'année. Elle s'attend à une demande robuste à Pâques et pour l'été prochain. Et on termine avec Emirates qui mise sur le carburant durable. L'objectif de la compagnie Emirati, en utiliser 50% pour ses vols en 2030. Elle a réalisé un premier vol de démonstration aujourd'hui avec 100% de carburant durable.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Faïza et ce monde qui change, on va le vivre aussi grâce dans un instant à John Plassard, vous l'apercevez dans le mur d'images de BFM Business si vous nous suivez sur l'application BFM Business ou à la télé. Bonjour John, on vous rejoint dans un instant pour anticiper cette énorme semaine américaine qui nous attend et on sera bien occupé ici, aussi ici en Europe avec beaucoup beaucoup de publications et la BCE bien sûr, Aude Kersulec avec nous puis la tour Euronext. Rebonjour Aude, en attendant ces grands rendez-vous, le CAC 40 est quasi stable cet après-midi.
Oui, on a réduit nos pertes et on entrevoit même du vert maintenant. Alors avec beaucoup de zéros quand même, hein, plus 0,03% pour ce CAC 40, 7099 points. En toute franchise, on ne devrait quand même pas faire grand-chose aujourd'hui parce que oui, la semaine qui vient, eh bien, s'annonce vraiment très 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 chargée. Mais alors là, cette journée de lundi, elle va compter un petit peu pour du beurre avant ces grands rendez-vous. On a d'ailleurs le DAX qui est à 0%, l'Eurostox qui perd 0,1%. 3%. Alors à noter quand même, petite tension sur les taux obligataires au début de cette semaine qui va s'annoncer, bien évidemment mouvementée pour les taux d'intérêt. On a l'euro aussi qui remonte à 1,09$. Et puis le Brent, lui, qui prend quelques prises de bénéfices donc sur le Brent, hein, $85. Voilà pour les autres marchés. Puis à l'intérieur de cet indice parisien, eh bien le grand perdant du jour, c'est Renault. Alors en fait, Renault, les nouvelles étaient déjà bien anticipé, hein, ce qui est sorti ce matin dans le communiqué, la réduction de la participation de Renault dans Nissan, donc 15%, et puis la participation normalement de Nissan dans la nouvelle entité électrique de Renault Ampère, tout ça, ça avait déjà beaucoup, beaucoup fuité, donc on prend les bénéfices sur ces nouvelles, on perd 4% à 36,70€, on a Stellantis aussi qui perd 1% à 14,07€, et puis Total Energy qui reflue aussi dans la foulée de la baisse des cours du brut, moins 1,4%. Toujours du défensif en tête du CAC 40, Thales, Pernod Ricard ou encore Danone. Et puis sur le SBF, à noter quand même Elior qui perd 9% aujourd'hui et en baisse d'ailleurs de 9% depuis le début de l'année. C'est le même chiffre que le CAC, mais en sens complètement inverse. Donc moins 9% à 3,02€. Et puis Groupe SEB aussi, moins 2,7, dont on attend les résultats ce soir avec un chiffre d'affaires qui devrait s'annoncer en repli.
D'autres actus d'entreprise à suivre, mais cette fois au-delà du marché parisien en Europe aujourd'hui, Aude.
Oui, c'est vrai, pour avoir un beau mouvement à la hausse, on va à Amsterdam où Philips nous a dévoilé ce matin ses résultats, alors des résultats pas très glorieux, une perte nette, hein, de 1,6 milliard d'euros sur l'année, une année marquée par le rappel de nombreux appareils respiratoires. Philips qui s'est spécialisé maintenant sur la santé, eh bien le management qui a utilisé un remède radical, hein, pour compenser cette perte, des coupes d'emplois, donc 6 000 suppressions à venir d'ici à 2025 et des investisseurs qui réagissent à la hausse sur cette nouvelle, plus 5,9% à 16,48€ pour un indice à Amsterdam qui est justement toujours en repli. Et puis direction Dublin aussi pour Ryanair, donc là une compagnie aérienne low cost qui publiait son meilleur bénéfice au quatrième trimestre. C'est vrai qu'on a des perspectives qui sont très bonnes, une demande qui s'annonce robuste pour les vacances de Pâques, pour les vacances d'été. La reprise est là, mais le secteur allait aussi très très bien depuis le début de l'année. On avait pris 20% sur le titre Ryanair. Donc là, ça cale un peu. On perd 3,5% pour Ryanair à la Bourse de Dublin.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, en direct avec nous. On vous retrouvera, Aude, tout à l'heure pour la clôture des marchés européens, bien sûr, en direct. Tout de suite, on va parler aussi de Wall Street qui entame cette semaine. Pareil, assez attentiste avant les grands rendez-vous qui vont animer cette nouvelle semaine. On va en parler avec John Plassard.
BFM Business. BFM Bourse. USA Today.
Bonjour John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Trois calls hors catégorie donc cette semaine aux États-Unis, la Fed, les publications, les GAFAM notamment, et l'emploi, le rapport sur l'emploi américain, ce sera vendredi. D'après vous, de ces trois calls hors catégorie, quel sera le plus déterminant pour la suite ?
Bonjour Guillaume, c'est une question extrêmement compliquée parce que on sait que la réunion de la Fed et l'emploi américain sont d'une certaine manière liés puisque le plein emploi fait partie des mandats de la Réserve fédérale américaine. Et puis l'autre chose, c'est que on a vu que la publication des résultats des entreprises avait d'une certaine manière plus marqué la tendance des marchés que les publications des statistiques macroéconomiques. Alors, je dirais quand même que c'est évidemment le côté monétaire. On s'attend à une hausse de 0,25 points de base de la part de la Fed qui va certainement marquer les esprits. Mais aussi, on a notamment ces GAFAM qui vont couper la tendance ou la prolonger. Il faut rappeler ici une chose, Guillaume, qui est très très importante, c'est que le S&P 500 est en passe de réaliser un des meilleurs mois de janvier depuis le début du siècle, hein, après celui qu'on avait connu en décembre 2019, juste avant le Covid. Et on est dans une situation qui est, d'une certaine manière, si on se réfère à l'histoire, excessive. Donc ces trois rendez-vous dont vous avez parlé, eh bien, où ils vont prolonger la tendance, où ils vont le casser. Alors moi, je suis plutôt d'avis de dire qu'on va avoir des prises de bénéfices qui vont avoir lieu cette semaine pour repartir dans un second temps. Donc faire très 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 attention à la volatilité cette semaine, bien évidemment.
Le FOMC, la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, ce sera mercredi soir. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Bah écoutez, il y a quatre points qu'il faudra regarder. La première des choses, c'est que de savoir si on est proche de cette fameuse pause, hein, c'est-à-dire qu'on est à 4,5, on devrait monter progressivement à 5. Donc si on imagine qu'on monte de 25 points de base, on sera à 4,75. Donc tout proche de la pause, mais on va voir évidemment le discours de la Fed. Après, la chose qui est très importante, c'est de savoir si, lorsqu'il y aura cette pause, si elle va durer ou si la Fed va directement faire ce qu'on appelle le pivot, c'est-à-dire baisser ses taux assez rapidement. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est évidemment l'économie. Vous savez, on est tous en train de dire qu'on s'attend à un soft landing, c'est-à-dire si c'est une récession, ce sera une récession de très courte durée et qu'elle ne sera pas agressive, eh bien, la Réserve fédérale américaine va nous donner un peu plus de piment là-dessus. Et il faut noter une chose qui est très importante, Guillaume, c'est que depuis 2 ans maintenant, lorsqu'on a une réunion de la Réserve fédérale américaine, bah dans 80% des cas, le S&P 500 monte après la réunion de la Réserve fédérale. Et donc, on va voir si ça se poursuit. On a 8 chances sur 10 que la tendance soit haussière juste après la Fed. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le lendemain, on a la BCE, ce qui sera un peu plus compliqué.
Effectivement. Et le lendemain aussi, une pluie, une avalanche de publications dans l'univers des GAFAM, jeudi soir, mercredi soir aussi, Meta annoncera ses résultats, mais il n'y aura pas que les GAFAM, il y aura aussi Ford, par exemple, Starbucks et beaucoup d'autres, hein, beaucoup d'entreprises, une centaine d'entreprises du S&P publient cette semaine. Allez, quelles sont les deux entreprises que vous suivrez, vous, particulièrement, John, cette semaine ?
Bah, je dirais la première, c'est Apple, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses préoccupations. On s'attend à une baisse de 8% des bénéfices et des ventes de 2%. On a un climat macroéconomique qui est très difficile. Et puis, vous vous souvenez des grèves qu'on avait eues en Chine ? Eh bien, elles étaient au dernier trimestre, celui qui compte, donc, dernier trimestre 2022. Après, on va aussi voir une chose, c'est les ventes de iPhone et de MacBook, hein. Vous savez qu'il y a un ralentissement très fort. Donc, on va voir si c'est anticipé ou pas. Et on devrait avoir, comme les autres entreprises, eh bien, un commentaire prudent du management. Après, l'autre chose du côté un peu plus positif, je dirais, c'est McDonald's. C'est demain soir. On s'attend à des résultats très favorables, notamment grâce à l'ouverture en Chine, notamment parce que les marges sont restées très fortes, hein, même s'il y a eu des augmentations des prix. Vous savez, le pouvoir de fixation des prix, le pricing, le fameux pricing power dont on parle beaucoup. Et puis, on a vu que depuis le Covid, eh bien, l'écart entre McDonald's et la concurrence s'était agrandi, puisque les gens avaient été plus dans les fast-food, et notamment McDonald's, que dans les autres restaurants. Donc, globalement, on s'attend à des résultats très positif de McDonald's demain soir.
À ne pas oublier McDonald's, en effet, demain. Près d'un tiers déjà du S&P a publié, annoncé ses résultats, ses perspectives. Quel premier bilan est-ce que vous en tirez ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette saison de publication est quand même pire que la précédente ? Peut-être alarmante ou juste moyenne, mais sans être alarmante ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Bah écoutez, sur 125 sociétés du S&P 500, c'est pas très glorieux. On a un taux de surprise positif des bénéfices par action qui sont de 69% et des ventes de 62%. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais c'est moins bien. Les deux sont inférieurs à la moyenne historique. Et si on regarde le taux de surprise des ventes, il figure parmi les 4 pires trimestres depuis ces 2 dernières décennies. Donc on voit que c'est pas bon, mais comme on l'a dit avant, on a un des débuts d'année qui est le plus important depuis près de 20 ans. Donc on voit qu'il y a une totale décorrélation entre le message des entreprises, les résultats des entreprises et puis finalement la réaction en bourse, puisque on a notamment des facteurs techniques, on en parle assez souvent Guillaume, ces fameux rachats de short où les gens qui ne savent plus où parquer l'argent, leur argent, eh bien qui reviennent sur le marché des actions.
Effectivement, et on a donc ce mois de janvier historique pour le S&P 500 et cette statistique John que vous avez vu aussi, que vous avez d'ailleurs publié ce matin sur votre compte Twitter, toujours très intéressant à suivre d'ailleurs votre fil Twitter, 89% du temps où le S&P 500 termine janvier sur un solde mensuel positif, 89% du temps, les marchés progressent de 20% durant l'année. Voilà. Bon, on va voir si ça se confirme encore cette année avec cet incroyable mois de janvier du S&P 500. Quelles sont dans l'actualité des entreprises les annonces, les nouvelles qu'il faut absolument retenir et ne pas rater aujourd'hui ?
Bah écoutez, Tesla, vous savez qu'on en parle quasiment tous les jours de Tesla ou d'Elon Musk, eh bien ici, une nouvelle inquiétude pour les véhicules électriques, puisque Ford est en train de baisser le prix de son fameux Mustang électrique pour faire concurrence notamment à Tesla. On va regarder aussi la baisse aujourd'hui de tous les ADR, notamment chinois, qui sont cotés à New York, c'est-à-dire Alibaba, JD.com et les autres entreprises, parce que on a un membre de la Chambre des représentants aux États-Unis qui a dit que les risques de conflit avec la Chine au sujet de Taïwan étaient très élevé, je le cite. Donc on voit ici qu'il y a un stress, hein, une tension géopolitique entre les États-Unis et la Chine qui se poursuivent. Et puis Goldman Sachs est en train de restructurer absolument tous ses actifs en Russie et serait proche de la sortie de la Russie totale, contrairement à d'autres banques qui sont toujours parquées en Russie.
Merci John. John Passard, spécialiste en investissement de Mirabeau, à nos côtés chaque jour, USA Today, et donc cette semaine qui s'annonce particulièrement riche aux États-Unis, ici aussi en Europe, avec la Banque Centrale Européenne, mais c'est surtout aux États-Unis quand même hein, qu'on aura le plus de grands rendez-vous. En attendant, petite baisse du S&P 500 aujourd'hui, moins 0,4%. Le CAC 40 est quasi stable, 7096 points à la Bourse de Paris.
BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs.
L'investissement responsable a son rendez-vous chaque jour aux alentours de 16h20 sur BFM Business et chaque lundi notre portefeuille BFM responsable, ce portefeuille virtuel d'une quinzaine de valeurs toutes éligibles aux critères de l'ISR. L'un de nos trois co-gérants vient de nous rejoindre, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Spécialiste en investissement de Mirabeau, on est ravis de vous retrouver, d'autant qu'on va parler des performances de ce portefeuille. Il a une nouvelle fois fait mieux que l'Eurostock 50 la semaine dernière. On n'arrête pas de surperformer. Depuis le début de l'année, ça se traduit aussi par une surperformance. On en parle dans un instant. D'abord, quand on parle d'investissement responsable, on parle beaucoup de lutte contre le réchauffement climatique et la façon dont mes investissements en tant qu'investisseurs peuvent contribuer à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup moins de biodiversité, mais on sent que d'un point de vue politique, dans les grandes estrades mondiales, cette thématique de la biodiversité est en train de monter elle aussi en puissance.
Effectivement, dans le sillage de la COP 15 à Montréal, alors c'est Cunning, c'était en Chine, et à cause du Covid, ça a été reporté, donc on a eu cette conférence de Montréal, sur laquelle il y a eu énormément de nouvelles concernant la préservation de la biodiversité, avec des enjeux financiers majeurs, hein, puisque en gros, c'est la règle des 30-30, c'est de rétablir 30% de la biodiversité et à un horizon 2030, avec des financements à hauteur de 30 milliards donc par an. On est sur des financements majeurs et une trajectoire qui va s'accélérer d'ailleurs, hein, pour préserver justement cette biodiversité, parce qu'il y a un enjeu économique très important aujourd'hui, on le sait, on l'a vu, les déperditions de cette biodiversité, les microplastiques qui arrivent aujourd'hui dans nos océans, qui provoquent à terme effectivement des problèmes de l'alimentation, de la fourniture d'eau. Lorsqu'on a des accords aussi importants, et force est de constater que la Chine a été plutôt leader d'ailleurs hein, dans ce mouvement-là. Donc c'était pas forcément attendu, mais c'est là pour le coup, c'est à signaler, c'est que nos amis chinois ne sont pas fait tirer l'oreille. Pour arriver effectivement à cet accord majeur. Et on voit de plus en plus dans la sphère d'investissement ce critère de biodiversité apparaître, parce qu'il y a des enjeux. Il y aura une réglementation qui va pousser justement l'investissement, puisqu'on parle d'une exclusion à hauteur de 500 milliards d'exclusion de financement de sociétés qui ont un impact négatif sur la biodiversité, puis à horizon une dizaine d'années, la suppression des financements pour l'ensemble des entreprises et des acteurs économiques qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Donc on le voit bien, à l'instar de ce qui s'est passé notamment avec l'ESG, c'est-à-dire on va commencer à driver finalement tous les financements vers les entreprises les mieux disantes par rapport à ce point-là. Et on le voit, hein, l'autre jour j'étais avec un de nos confrères, Tocqueville, pour pas les signaler, mais qui lançait un fonds sur la biodiversité. On voit aujourd'hui, par exemple, dans notre gamme, également ISR, qu'on a mis des critères de biodiversité pour justement aller dans ce sens d'un investissement de plus en plus important.
Cet enjeu de la préservation de la biodiversité qui avançait dans l'ombre de la lutte contre le réchauffement climatique, cet enjeu est en train d'entrer dans la lumière. Là. Et vous le disiez, il ne s'agit pas seulement de préserver la biodiversité restante, il s'agit de restaurer la biodiversité.
Ouais. Alors, il y a un impact.
Il y a un enjeu médical aussi pour trouver de nouveaux médicaments, etc. On a besoin d'une biodiversité la plus vaste.
La particularité, c'est qu'on n'est pas forcément sur les mêmes acteurs. C'est ça qui est assez étonnant. On le voit, par exemple, il y a les premiers rapports sur la préservation de la biodiversité apparaissent notamment dans le secteur de l'énergie. Et on sait que, naturellement, c'était les moins 10 ans sur la partie environnementale. Et on voit, justement, qu'ils surfent un peu là-dessus, justement, sur notamment le traitement des eaux. Je pense notamment à toute l'industrie de production d'énergie. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être une forme de mutation et un spectre qui s'élargit, une autre visibilité. Je prends souvent l'exemple, par exemple, des éoliennes. Les éoliennes, oui, c'est un impact positif en termes d'émissions d'énergie, mais sur...
les oiseaux.
Sur les oiseaux, on le sait, il y a des craintes toutes naturelles avec une déperdition effectivement de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout un questionnement qui est en train de changer sur cette partie de l'ESG, la biodiversité.
Mais on arrive en tant qu'investisseur socialement responsable à identifier des entreprises dont on peut se dire qu'elles sont cotées en bourse et elles sont positives pour la biodiversité. Il en existe, on arrive à les identifier.
Oui, alors ça reste pour l'instant quelque chose qui est pas totalement mis en avant.
Et pas facile à quantifier.
Pas facile à quantifier. Alors, je vais citer un Français, Danone, par exemple, qui travaille énormément sur la partie agricole. On sait que c'est un des contributeurs négatifs, hein, puisque notamment par les pesticides, on a un impact négatif sur la faune et la flore, bien sûr. Et Danone a toute une politique de préservation de l'écosystème et sur le traitement des sols. Je pense à un Américain, par exemple, John Deere, qu'on connaît bien, qui est un fabricant de tracteurs, qui, justement, profite de son leadership pour travailler l'efficience, quelque part, des rendements des terres agraires. On le sait, hein, plus les sols sont fertiles et ont un meilleur rendement, moins on a besoin de déforestation. Donc c'est aussi une forme de préservation de l'écosystème.
Bon, cette thématique de la biodiversité qui monte en puissance aussi, qui va amener à une réglementation elle aussi de plus en plus exigeante, comme on est déjà en train de le voir sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Pendant ce temps, notre portefeuille BFM responsable, bah écoutez, il va plutôt pas mal depuis le début de l'année, plus 11,7%. Alors que l'Eurostox n'a gagné, entre guillemets, que 10%. Petit joueur, l'Eurostox, à côté de notre portefeuille.
Oui, on a été prudent, vous le savez. Hein, on a installé deux lignes de cash sur le portefeuille. On a récemment sorti ASML. Alors, on n'était pas dans les nouvelles, honnêtement, sur des nouvelles politiques. Hein, on l'a vu sur le fait que les entreprises néerlandaises et japonaises ne peuvent plus fournir de solutions aux Chinois. Donc, c'est un impact négatif aujourd'hui sur le titre. Mais c'était plus une problématique de valorisation et un titre qui avait extrêmement bien performé.
Vous voulez nous dire que vous avez eu de la chance, quoi. Vous l'avez vendu au bon moment, c'est un peu...
Non, je crois que c'est du talent. Non.
Vous avez été audacieux, la chance sourit aux audacieux.
Bien sûr. Non, c'était vraiment pour une question de... Voilà, comme l'a souligné John, on a une semaine extrêmement compliquée. Ces valeurs de croissance sont très, très bien performées. C'est le cas également de titres comme L'Oréal. Et on a voulu préserver l'avance qu'on avait sur le portefeuille en montant deux lignes de cash. Alors, bien sûr, on est sur le qui-vive. Hein. On va voir un peu comment réagissent les marchés.
Le choix de ces deux valeurs, vous avez choisi de sortir du portefeuille des best performers à ASML et L'Oréal, parce que vous vous dites que oui, on est au bout du potentiel de hausse.
Non, absolument pas. C'est un problème de valo court terme, de valorisation court terme, des multiples de valorisation qui, dans un message moins bien contenu de la part de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne, pourrait tendre notamment les valeurs de croissance. Donc c'est plutôt dans cette optique-là qu'on a préféré à les capter. On a essayé de trouver une sorte de plancher sur lequel on pouvait se mettre à l'abri quelque part dans cette période peut-être de forte volatilité. Donc voilà, on est sur le qui-vive, on est prêt à réagir, on est prêt à investir, mais peut-être d'ailleurs sur les mêmes titres, on verra hein, les réactions. On a vu que L'Oréal a commencé un petit peu à corriger la semaine dernière. ASML, c'était un peu plus violent ce matin, même si ça limite un peu la perte cet après-midi. Donc voilà, on est plutôt dans l'attente.
Pour l'instant, donc, vous avez choisi de gonfler, construire une ligne de cash après la vente de L'Oréal et d'ASML. Pourquoi pas plus tard, on verra, revenir sur ces deux titres. Peut-être. Parce qu'il y a si peu de valeur que ça, ISR, qui vous semble intéressant.
Si, énormément, mais pour le coup, notamment ASML, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs qui viennent parler de cette valeur, qui est une société incroyable, néerlandaise, leadership, sur
c'est le LVMH des semi-conducteurs.
Oui, c'est machine de ce qu'on appelle de la lithographie. Donc, vous n'avez pas de semi-conducteurs qui ne passent pas dans les mains d'ASML, puisque ce sont des grosses machines qui permettent, par ultraviolet, de fabriquer ces fameux semi-conducteurs dont on sait que la demande est très, très forte. Donc, oui, il y a un positionnement incroyable, une visibilité incroyable sur l'entreprise. Voilà, je vous dis, c'est plutôt un agissement très, très court terme. On va peut-être le regretter, on verra plus tard. Mais en tout cas, on est prudent.
Bon, et toujours pas de ligne biodiversité dans ce portefeuille, alors?
Ça viendra certainement, je vous dis, par justement cette ambition très très forte des pouvoirs publics, des grandes institutions qui vont justement drainer cet investissement vers ce genre de société. Donc il ne faut pas arrêter la marche. Juste, je voulais faire une petite aparté, si vous permettez, sur ce qui va se passer aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis sont un petit peu en retard quand même sur l'ESG, notamment sur toutes les communications extra-financières. Ça représente moins de 50% des entreprises aux États-Unis. Mais il y a un agenda qui se bouscule. On aura avril jusqu'à septembre-octobre, la SEC qui va commencer à rendre des règles beaucoup plus strictes par rapport à cet investissement ESG, donc que ce soit sur la cybersécurité aussi, mais également sur l'humain, sur la discrimination, voilà, et sur les émissions bien sûr de CO2. Donc on a une accélération de l'ISR. Donc nous, on regarde plutôt l'Europe, mais aux États-Unis, c'est en train de bouger, et c'est en train de bouger relativement rapidement. Il y aura beaucoup de contraintes d'ici la fin de l'année.
Oui, la sécurité numérique, ça peut intégrer un portefeuille socialement responsable.
Exactement.
Ouais. Frédéric Rosier avec nous aujourd'hui, spécialiste en investissement de Mirabeau. Merci Frédéric d'être passé nous voir, et bravo pour ses performances. Donc, vous co-gérez ce portefeuille aux côtés de Stanislas de Bailliencourt pour Sycomore AM et ses équipes, et Guillaume Chaloin pour Mescart Asset Management. Merci beaucoup.
Merci Guillaume.
Et on rappelle la performance depuis le début de l'année, ce portefeuille plus 11,7%, un peu mieux, même beaucoup mieux que l'Eurostock 50, qui gagne quand même lui aussi 10,3%. Déjà l'an dernier, notre portefeuille avait surperformé, et l'année d'avant aussi, ça n'arrête pas. Merci beaucoup. On peut être investisseur responsable et opportuniste, la preuve. Dans un instant, la séance du jour en direct. Le CAC 40 est toujours extrêmement indécis, avant cette semaine extrêmement chargée, semaine peut-être la plus décisive de ce premier trimestre sur les marchés, peut-être même de ce premier semestre. On a encore le temps de voir venir, mais on va en parler avec nos experts dans un instant. Notre analyste technique, notre trader, il sera là, le plan de trading à suivre, et puis juste après, le club BFM Crypto. Et on sera d'ailleurs à San Francisco avec Cyril Paglino en direct, qui nous dira comment l'écosystème crypto est en train d'évoluer en Californie et plus largement aux États-Unis. Ce sera juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
16h31, on est ensemble en direct. Andrea Twenny nous rejoint depuis Saxo Bank. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Prendre le pouls des marchés. Wall Street en toute petite baisse, le S&P perd 0,6%. À Paris, le CAC préserve ses gains des dernières semaines, moins 0,1%. Toute petite baisse, vraiment juste symbolique. Andrea, on est à 7088 points. Est-ce que vous sentez que techniquement, le CAC 40 en a assez sous le pied pour résister à cette semaine à haut risque, à grands enjeux en tout cas, puisqu'on va avoir une série de grands rendez-vous qui pourraient peut-être marquer la suite de cette année boursière, semaine peut-être décisive. Est-ce que d'un point de vue technique, le CAC est armé pour affronter cette nouvelle semaine?
En tout cas, cette semaine, elle sera déterminante, hein, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de certitudes qu'on a depuis le début de l'année, avec un marché qui price très fort, par exemple, une Fed beaucoup plus dovish qu'elle ne l'a été la dernière fois, 25 points de base aux dernières réunions, 25 points de base de hausse contre 50 sur les dernières réunions. On anticipe aussi, les marchés anticipent une deuxième hausse de 25 points de base cette année, avant peut-être d'atteindre ce point de pivot et potentiellement une baisse de taux qui est espérée aussi avant la fin de l'année 2023. Ça, c'est ce que price les marchés, et cette cette espérance, cet espoir des marchés, elle sera mise à rude épreuve cette semaine avec justement les annonces de la Fed, avec des données aussi macroéconomiques, rapport sur l'emploi vendredi, des chiffres aussi du côté des entreprises, donc la microéconomie avec les résultats des techs américaines. Donc c'est vraiment une semaine à haut risque, mais c'est vraiment surtout ces réunions de banque centrale, la Fed, la BCE, mais aussi la Banque d'Angleterre, qui vont faire des annonces cette semaine, qui seront vraiment décisives, parce que le plus gros catalyseur de hausse des marchés depuis le début de l'année, c'est vraiment cette anticipation de banque centrale plus accommodante. Et donc vraiment, il y a un gros risque de déception à ce niveau-là, il y a un gros risque que ces banques centrales, et notamment la Fed, viennent contrarier un petit peu ces prévisions des marchés. Et ça va vraiment être l'enjeu de cette semaine. Du côté du CAC, on a vu, on a eu un départ aujourd'hui un petit peu plus poussif. Et derrière, on a encore une fois réussi à repartir de l'avant. On était dans le rouge sur vraiment 0,4 et 0,6% de baisse toute la matinée avant vraiment de réussir à regagner du terrain et à se rapprocher, à même repasser au-dessus des 7100 points un peu dans l'après-midi. Il y a une vraie barrière aujourd'hui sur le CAC, c'est vraiment cette zone 7115, légèrement au-dessus, en dessous des 7120. C'est vraiment un plafond de verre depuis le début de l'année sur le CAC. On a réussi à fortement progresser, mais à chaque fois qu'on est revenu sur ce niveau, on a eu derrière un repli, une consolidation du marché. C'est encore ce qu'on a observé la semaine dernière. On a atteint le niveau et puis ce matin, ça a été plus compliqué. On l'a vu aussi mi-janvier, autour du 18 janvier, où on avait eu exactement le même scénario sur le CAC. Donc l'enjeu vraiment de cette semaine, si on a des nouvelles positives sur le plan macro, micro, mais aussi que les banques centrales rassurent, c'est de réussir à casser ce niveau-là. C'est une possibilité, mais c'est vrai que pour le moment, à chaque fois, on a échoué. Et puis à l'inverse, on est assez loin des zones des zones de retournement de tendance. On est vraiment très très loin. On a des niveaux de support à 7050, 7000 sur le CAC, jusqu'à 6950. Ça tient bien. On reviendrait sur une zone peut-être d'un peu plus de neutralité en dessous des 6950. Vraiment, les niveaux d'alerte, ils sont plus éloignés. Hein. Ils sont plus autour des 6850, où là, vraiment, si on a une cassure de ce niveau, ça remettrait un petit peu en cause la tendance qu'on observe depuis le début d'année. Et tant qu'on reste au-dessus, pour le moment, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir sur le marché, mais ça va vraiment, encore une fois, être l'enjeu de cette semaine, parce que si on a une vraie déception, et encore une fois, j'insiste là-dessus, au niveau des banques centrales, et qu'elles viennent vraiment contrarier les plans que se sont fait les marchés et les investisseurs, avec une déception au niveau vraiment d'un scénario plutôt dovish qui est espéré, et ben là, du coup, il peut y avoir une vraie remise en cause du mouvement qu'on observe depuis le début de l'année. On le rappelle, hein, sur le CAC, on gagne quand même 9,5%. Donc si vraiment il y a une déception du côté des banques centrales et que le marché adhère à ce discours qui pourrait éventuellement être plus ferme, c'est vraiment le risque qu'on a sur la semaine, là, il peut y avoir une vraie remise en cause des gains qui ont été engrangés depuis le début de l'année et donc du coup une correction sur les marchés. Pour le moment, en tout cas, c'est plutôt positif. Même aujourd'hui, on sentait que c'était un peu plus poussif, qu'il y avait une volonté peut-être d'être un peu plus sous-exposé par rapport justement aux enjeux de la semaine. On parvient quand même à revenir au contact des 7100 points sur le CAC et c'est déjà un signe de force qui est assez important.
Merci André Atouigny, nous accompagner depuis Saxo Bank. Le CAC 40 en toute petite baisse, donc quasi stable, 7090 points. Renault Lanterne Rouge quand même, ce titre Renault en repli d'un peu plus de 4%. Nos experts du jour chez Ports en Part Gestion considèrent que le potentiel sur Renault reste particulièrement important. En tout cas, le retard du titre, sa sous-valorisation lui offre encore un beau potentiel malgré la baisse du jour, liée peut-être à quelques prises de bénéfices, hein, puisque Renault avait cartonné à la hausse depuis le début de l'année. Renault, sur lequel on a quelques détails hein, pour l'avenir de son alliance avec Nissan. Renault passerait de 43 à 15% de Nissan. En échange, Nissan montrait hein, dans le projet Ampère les véhicules électriques de Renault cotés en bourse, mais on ne sait pas dans quelle proportion Nissan y participerait. Et c'est peut-être aussi ce flou que sanctionnent les marchés. Renault, en tout cas, recule aujourd'hui d'un peu plus de 4%. On vous rappelle aussi cette idée de valeur en plus, valeur ajoutée, c'est chaque après-midi en direct à 15h45. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le replay de la valeur ajoutée du jour sur notre site BFM Business, notre site BFM Bourse également. Valeur ajoutée que nous a présenté Marc Giraud pour HMG. Il est à l'achat sur le titre Tarkett et il nous a dévoilé tout à l'heure son objectif de cours. Vous pouvez retrouver le replay donc de cette valeur ajoutée, bien sûr, sur notre application, sur notre site internet. Tout de suite, on va regarder aussi ce qui se passe du côté des cryptos. C'est notre club BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Ils sont là, nos experts. Pauline Armandet, avant la publication de la newsletter BFM Crypto, cette newsletter chaque lundi à 18h. Bonjour Pauline.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Et donc cette newsletter à laquelle chacun peut s'abonner, elle reste gratuite. Cyril Paglino aussi nous accompagne, le cofondateur de Shift Capital, fonds dédié à la crypto. Bonjour Cyril. On est ravis. Alors, ravis de vous retrouver, Cyril. On était tout à l'heure depuis Hong Kong avec Hervé Liévor. Hong Kong où il est 23h37. Vous êtes avec nous depuis l'autre bout du monde, la Californie, San Francisco. Il est chez vous, 7h37 du matin, là, en direct, Cyril. Merci de vous être réveillé tôt pour nous. Vous êtes parti en Californie prendre le pouls de l'écosystème Web3 aux États-Unis. Vous nous direz ce qu'il en est dans un instant et les projets qui vous inspirent en tant qu'investisseur pour la suite. Et puis, Vincent Bois aussi nous inspire, en tout cas, nous accompagne. On va voir s'il inspire nos auditeurs et téléspectateurs. Vincent Bois depuis IG. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Quel potentiel sur le Bitcoin, Vincent? Bitcoin toujours au-dessus des 23 100 $ en ce moment.
Oui, alors le Bitcoin qui évolue, qui temporise un peu hein, ça, cette tendance haussière qu'on a vue depuis le début de l'année qui a fortement accéléré. Les précédents week-ends étaient plutôt un signe de nouvelle accélération. Hein, on l'a eu deux fois de suite. Et puis ce week-end, le week-end dernier, un peu moins d'accélération. Ce qui montre que tout de même, nous sommes peut-être sur un point où il y aura à un moment une inflexion, une correction. Et on est effectivement dans cette semaine, vous en parliez à l'instant, cette semaine très risquée avec beaucoup de rendez-vous au niveau macroéconomique des économies ou des actifs traditionnels qui pourraient amener à une consolidation sur le marché traditionnel, mais également sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Donc, on le voit au niveau des graphiques, on le voit également eh bien, au niveau de ce qui nous attend cette semaine. Ce pourrait être le moment, justement, de prendre une décision et donc d'avoir une consolidation, oui. Et ensuite, eh bien, soit de valider cette tendance haussière, c'est-à-dire qu'un retour sous les 22 300 pour aller chercher le 19 700 $. Je rappelle ce niveau psychologique très important, l'ancien plus haut historique de 2017. Eh bien, si nous avions cette correction, mais qu'elle parvenait, que le Bitcoin parvenait à rebondir sur ces 19 700, pour moi, par la suite, redépasser ces 20 000 et nous aurions la validation de la tendance haussière. Pour le moment, nous sommes encore dans ce schéma plutôt marché baissier. On a déjà eu deux rebonds de la sorte, hein, de 40%, c'était en début d'année 2022 et durant l'été dernier, qui avait conduit tout de même, malgré cette hausse importante, à un nouveau plus bas. Donc on va attendre justement pour moi cette consolidation et une confirmation ou non. Si au contraire, eh bien, on casse les 19 700, attention justement à l'invalidation et peut-être à une poursuite eh bien, de ce marché baissier dans lequel nous sommes encore, même si effectivement ce rebond est plutôt bien parti.
Vincent Bois en direct avec nous depuis. J'ai un petit mot de l'Ether peut-être aussi quand même. Quel potentiel d'un point de vue technique sur l'Ether, les seuils techniques qu'il faut suivre d'après vous?
Eh bien, de la même façon, hein, au niveau effectivement de l'évolution, on attend les confirmations et donc les 19 700 que j'ai cités sur Bitcoin, eh bien ici sur Ether, ce serait les 1420. Ça correspond au même niveau, cet ancien plus haut historique de 2017, la moyenne mobile également un indicateur technique en journalier et donc eh bien malgré une possible consolidation, eh bien, il faudrait se maintenir sur nos 1420 pour valider ensuite l'accélération haussière au-delà des 1700. Si on casse les 1420, attention en revanche à une nouvelle accélération proche des plus bas de début d'année vers 1200.
Merci beaucoup. Vincent Bois en direct avec nous. Depuis IG, on rappelle qu'il ne faut investir dans cet écosystème en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre, marché toujours très très spéculatif et qu'on vous fait découvrir jour après jour parce qu'il est passionnant. Évidemment, il tente de se constituer cet écosystème, il y parvient de plus en plus de passerelles aussi avec le monde de la finance traditionnelle et une réglementation qui est en train de monter en puissance. Une réglementation qui se construit quand même, Pauline. Dans la douleur. On se souvient la semaine dernière que l'Assemblée nationale a finalement voté pour un enregistrement renforcé des acteurs crypto en France. L'écosystème craignait que l'agrément devienne obligatoire pour les nouveaux entrants en octobre. Non, ce sera juste un enregistrement renforcé. Donc là, c'était un grand ouf de soulagement après ce vote la semaine dernière de l'Assemblée nationale. Sauf que vous venez nous apporter une moins bonne nouvelle. Ce ouf de soulagement pourrait ne pas durer.
Oui, effectivement. En fait, cet amendement donc qui est porté par le député Daniel Labaronne et qui consistait effectivement en un enregistrement renforcé s'ajoute au cadre actuel à la fois de l'enregistrement classique et de l'agrément AMF. Sauf que effectivement, la semaine dernière, donc l'Assemblée nationale a décidé de voter pour cet amendement en balayant un amendement qui voulait rendre obligatoire l'agrément des acteurs crypto en France, qui leur permettrait en outre de pouvoir exercer en France. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que cet amendement en question, qui a été porté par un certain sénateur qui s'appelle Hervé Maurey,
dure qui voulait l'agrément.
Donc se retrouve effectivement un peu balayé, et on en a notamment un peu discuté avec donc ce fameux sénateur. Il nous explique qu'en gros, il est pas satisfait de la création d'un troisième régime sous la forme d'un renforcement renforcé. Que d'ailleurs le fait que les acteurs crypto se réjouissent d'un tel dispositif, c'est pas forcément très rassurant. Et il explique donc du coup qu'il veut pas lâcher cette affaire et qu'il va vouloir rencontrer différents acteurs cette semaine, à la fois la Banque Centrale, l'AMF, mais aussi l'industrie des cryptos, en vue, et ça c'est une information BFM Crypto, de participer à une commission mixte paritaire qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 9 février prochain, entre 7 sénateurs et 7 députés, donc de l'Assemblée nationale.
Donc, il vous annonce, et c'est à lire dans cette newsletter BFM Crypto, apparaît tout à l'heure à 18h, il vous annonce cette commission mixte paritaire. Quel sera son but, son objectif? Quels sont les risques associés, du coup, pour l'écosystème à cette commission mixte paritaire?
Alors, en fait, l'objectif de la commission, c'était de pouvoir réunir, on va dire, en plus petit format, des députés et des sénateurs pour pouvoir discuter de textes qui n'ont pas fait l'unanimité, donc comme on l'a vu dans le cadre du processus législatif. Typiquement, ce texte adopté par l'Assemblée nationale, mais qui avait été, qui n'a pas plu aux sénateurs.
Et, à ce sénateur, en tout cas.
À ce sénateur avec qui on a parlé. Et donc, au sein de cette commission mixte paritaire, il va y avoir un peu un match entre le sénateur Hervé Maurey, qui va de nouveau vouloir remettre en avant ce texte, et de l'autre côté, donc le député Daniel Labaronne, dont on parlait, et dont l'amendement a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et en fait, le sénateur Hervé Maurey nous a expliqué que c'était pas totalement incertain que son texte soit de nouveau mis en avant dans le cadre de cette commission mixte paritaire. Parce qu'il explique qu'en gros, pour qu'une commission mixte adopte certains textes, il faut une majorité des députés et des sénateurs qui sont présents. Et il considère que notamment les 7 sénateurs devraient adopter son texte, ou en tout cas le trouver assez intéressant.
Le texte le plus dur.
Le texte effectivement le plus dur et qui viserait à rendre obligatoire l'agrément PSAN. Et qu'en même temps, il y a quelques députés, notamment du groupe LR, qui pourraient aussi se rallier à ce type, en tout cas à ce texte un peu plus dur. Donc, les négociations risquent de ne pas être totalement figées, comme on pouvait le penser encore la semaine dernière.
Les jeux ne sont pas faits.
Ouais, c'est ça. Et de son côté, évidemment, on a contacté le député Daniel Labaronne, qui lui dit qui va évidemment défendre sa paroisse, de nouveau défendre son amendement d'enregistrement renforcé, et que en tout cas les débats risqueront d'être houleux durant cette commission mixte paritaire. En tout cas, ça sera assez intéressant de suivre ça de près la semaine prochaine.
En effet, parce que pour l'instant, donc l'écosystème pousse sauf de soulagement, pas d'agrément obligatoire dès octobre. Juste un enregistrement renforcé, ça va. L'innovation pourra continuer de trouver un terrain de jeu en France. Mais donc, le sénateur Maurey n'a pas dit son dernier mot. Et le 9 février prochain, au cœur de cette commission mixte paritaire, il espère bien faire à nouveau pencher la balance en faveur de son amendement et de sa vision beaucoup plus dure et radicale. Ouais. Bon, à suivre, du coup. Feuilleton qui se poursuit, bien évidemment. On va rejoindre depuis la Californie Cyril Paglino, donc The Chief Capital. Bonjour Cyril, vous êtes en direct avec nous depuis San Francisco en visio. Merci d'avoir accepté de vous réveiller tôt. Il est 7h46 du matin. Quelle est l'ambiance en Californie, aux États-Unis où vous vous trouvez pour l'écosystème crypto? Est-ce que c'est l'euphorie après ce début d'année incroyable, Bitcoin qui remonte de 50% à peu près par rapport à ses plus bas? Bref, quelle ambiance? Comment est-ce que vous sentez les choses chez vous, peut-être pas chez vous encore, vous y installerez peut-être un jour, mais en tout cas en Californie.
Oui, oui, bah, j'y ai vécu pendant 4 ans, il y a quelques années quand même, donc je connais un petit peu l'écosystème local, et c'est toujours un plaisir de revenir effectivement et de revoir un peu les anciens collaborateurs. Non, effectivement, le mot euphorie est un petit peu fort, mais effectivement, il y a un relan d'énergie depuis effectivement, moi, janvier avec cette avancée de Bitcoin. Disons que sur le long terme, l'écosystème est toujours très bullish. Les entrepreneurs continuent de construire leurs projets, les roadmaps se déroulent et tout avance plutôt bien. Sur le moyen terme, on attend effectivement mercredi l'annonce de la Fed effectivement sur les taux. On attend aussi les earnings des grosses boîtes du Nasdaq Tech qui vont être révélées aussi cette semaine. Donc il y a quelques signaux qu'on va regarder sur le marché, mais globalement, sur le long terme, toujours aussi bullish. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, contrairement à l'ancien bear market qui est arrivé en 2018, là, les boîtes ont tout de même pas mal de cash. Et donc, elles peuvent construire et passer un peu cet hiver qui peut durer encore quelques mois, voire même un an ou deux.
C'est-à-dire que l'investisseur, le chasseur d'opportunités que vous êtes, c'est votre métier, Cyril, vous jugez l'état des entreprises, malgré l'écosystème crypto, malgré la chute, les scandales qui ont émaillé l'année 2022, vous jugez leur état finalement pas si mauvais.
Ouais, effectivement. Alors, évidemment, la confiance d'un point de vue consommateur a été très érodée, avec le sujet d'abord Luna, effectivement, et suite à FTX en novembre dernier. Donc oui, il y a un gros travail de confiance à rétablir sur le marché crypto, donc des use cases aussi émergents à montrer pour le grand public. Mais en tout cas, dans l'écosystème, les boîtes vont plutôt bien. La raison majeure, c'est qu'elles ont levé des fonds en 2020 et 2021, aussi 2022, et qu'à l'instar de 2018, où elles avaient levé, vous savez, après la vague des ICO, donc toutes les levées de fonds étaient en crypto à l'époque, et bien les boîtes ont gardé des trésoreries en crypto à l'époque, où là, elles sont effectivement maintenant en fiat, pour la plupart, parce que c'était des levées de fonds plutôt classiques en venture, et pas des levées de fonds en ICO récemment. Donc elles ont du cash et elles continuent de dérouler. Alors oui, on fait attention aux coûts, on va pas recruter, on va pas non plus dépenser des tonnes en marketing, mais globalement, les boîtes se développent et elles espèrent passer l'hiver qui va durer peut-être 12, 18, 24 mois, on verra, mais globalement, elles tiennent bon. Ouais.
Bon, vous êtes en Californie, donc tout proche, on va dire, du sanctuaire des GAFAM. L'intelligence artificielle qui continue de monter en puissance, cette bataille autour de l'intelligence artificielle, on a vu ChatGPT ces dernières semaines commencer à pointer le bout de son nez dans la vie du grand public. C'est la première fois que le grand public peut tester une application d'intelligence artificielle. Est-ce que ça change aussi quelque chose dans le profil des projets dans l'univers Web 3?
Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, ChatGPT, OpenAI, on sait que c'est là depuis maintenant un petit moment, mais ça a été enfin annoncé au grand public et ça a effectivement eu l'effet d'un raz-de-marée. Et donc, du coup, il y a toute une vague de projets un peu moins intéressants dans Web3 qui vont du coup utiliser la vague AI pour effectivement, comme toujours, attirer un peu des investisseurs ou des clients. Donc ça, c'est toujours déplorable, malheureusement. Mais il y a effectivement quelques projets intéressants. On sait que l'intelligence artificielle, effectivement, en français, va créer quand même quelques petits sujets. On a vu notamment le sujet des deepfakes, donc les fausses vidéos d'hommes politiques ou de comédiens qu'on voit effectivement s'exprimer en vidéo qui sont uniquement effectivement des contenus créés par AI. Là, effectivement, la blockchain aura un enjeu. Il y aura des startups qui vont se développer dans ce sujet pour de la traçabilité et la certification de contenu. On imagine bien qu'une vidéo d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden qui parle, ça peut être pris par certains consommateurs comme vous et moi comme effectivement une vraie vidéo. Et donc là, effectivement, le Web3 sera un des sujets pour les boîtes Web3 pour effectivement contrecarrer ça et prouver que c'est une vraie vidéo, une fausse vidéo. Via un système assez complexe, mais il y a pas mal de boîtes qui développent dans cet univers-là, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et après, à San Francisco même, c'est drôle parce que la vague AI est là depuis un petit moment. Mais effectivement, récemment, on voit des levées de fonds dans d'autres boîtes compétitives d'OpenAI et de ChatGPT qui se lancent avec quelques chercheurs de chez Meta ou de chez Google et qui lèvent des montants assez délirants. On parle de seed, donc de premier tour d'amorçage à plusieurs dizaines de millions sur plusieurs centaines de millions de valos, juste avec une dizaine de PhD anciens Google et une boîte qui est pré-product. Donc il y a vraiment une espèce de vague assez délirante de la course au prochain ChatGPT, au prochain OpenAI. Et les valos sont effectivement assez incroyables. Ouais.
Vous êtes en direct avec nous, on rappelle, Cyril, depuis San Francisco, 7h51 du matin chez vous. Est-ce que, alors on parlait un instant avec Pauline Armandet de l'amendement Moret, de la réglementation qui n'est pas encore complètement stabilisée ici en France, ni peut-être un peu plus en Europe, mais en France, voilà, certains veulent peut-être accélérer les choses sur la réglementation. Est-ce que, vu de Californie, vous vous dites que oui, la France sera le hub, l'un des grands hubs mondiaux de l'écosystème Web3, ou vous vous dites non, c'est quand même ici, aux États-Unis, que les choses vont d'abord se passer?
C'est toujours une question épineuse. Effectivement, on adorerait, et beaucoup d'entrepreneurs français œuvrent pour qu'effectivement la France devienne un hub Web3. Dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est souvent des belles annonces, et malheureusement, derrière, le suivi est pas génial. Après, les États-Unis ont aussi leurs problèmes. Hein. La SEC va s'exprimer prochainement sur la catégorisation des cryptos en securities ou pas, et on sait qu'elle est plutôt défavorable à tout ça. Donc, chaque pays a ses problèmes. La France n'est pas forcément en retard, mais en tout cas, elle n'est pas pionnière sur le sujet, même si effectivement, moi le premier, et nous, les entrepreneurs français, on aimerait que ça le soit. Il y a encore un peu de chemin à faire, effectivement, pour que les États comprennent et assessent de façon plus logique un cadre légal pour ce type de classe d'actifs.
Bon, il y a un domaine dans lequel on est peut-être pionnier, c'est la réglementation, puisque la réglementation française doit inspirer la réglementation européenne, qui elle-même a de l'avance sur la réglementation américaine. En l'occurrence, on est pionnier, là, Cyril.
Oui, effectivement. C'est bien de le dire, oui. Est-ce que c'est une bonne chose, je ne sais pas, en tout cas. Mais oui.
Ouais. Bon, on va continuer d'en parler. Et juste parce qu'on aime bien quand on vous reçoit dans ce rendez-vous du Club BFM Crypto aussi que vous nous présentiez des projets dans lesquels vous croyez pour la suite en tant qu'investisseur. Ça n'engage à rien pour nos auditeurs et téléspectateurs. Juste une pure curiosité intellectuelle pour nous tous. Un des projets qui bouge et qui vous attire, qu'il faut à vos yeux pas louper, c'est le projet Aptos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui. Alors, c'est assez intéressant, mais c'est effectivement aujourd'hui overvalued, on va dire. Alors, Aptos, c'est effectivement une blockchain de layer 1, donc pour créer les applications décentralisées, les smart contracts, qui va arriver en compétition avec Ethereum, avec Solana, avec NIR Protocol, avec Polkadot et toutes les autres, qui a été créé par des anciens de chez Libra, donc effectivement le stablecoin de Facebook qui avait été lancé en grande pompe il y a 3 ans. La boîte a levé pas mal d'argent en juillet dernier, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars avec A16Z, le fonds de Marc Andreessen, donc toujours effectivement plutôt un bon signe. Aujourd'hui, la boîte a une valeur assez délirante parce que le token est liquide et il y a une grosse ruée vers l'or sur ce token. Donc, je déconseille fortement, si tu es intéressé en tout cas, de rentrer aujourd'hui. Mais le projet est intéressant. Pour une ordre d'idée, hein, Coinbase aujourd'hui, c'est valorisé entre 12 et 13 milliards. Et Aptos, si on prend la fully diluted value du projet, on est à 18 milliards, alors qu'il n'y a pas encore de projet et d'application dessus. Donc, beaucoup trop de hype. Mais en tout cas, on regarde ce qui se fait sur ce sujet. L'équipe est intéressante. Il y a aussi des anciens, effectivement, de chez Bernard dans le projet. Donc, on regarde ce sujet de loin, mais pour voir quel type d'application et quel type d'écosystème va se créer autour de cette blockchain-là. Donc, ça, c'est un des sujets, effectivement, oui.
Bon, Aptos, mais vous le disiez, hein, il y a peut-être beaucoup trop de hype, comme j'adore ce vocabulaire.
Trop de hype, toujours.
Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Non, mais voilà, on est en Californie, là. On y est, on est au cœur. On est au cœur de la mentalité. Justement, l'investisseur que vous êtes et qui cherche aussi, pour le coup, à investir dans des sociétés à un prix raisonnable, est-ce que, pour le coup, vous pouvez nous apporter un exemple de société dans laquelle vous choisissez, pour le coup, peut-être au contraire d'Aptos qui vous intéresse, mais dont vous jugez la valorisation excessive, dans laquelle vous choisissez d'investir, peut-être d'investir maintenant?
Oui, on vient de rentrer dans une boîte d'ailleurs française qui s'appelle Carbonable. On était effectivement très fan du sujet de la team. C'est de la tokenisation de projets liés au crédit carbone. Et donc, en gros, ils vont créer une place de marché. On va pouvoir acheter un NFT qui représente un projet de crédit carbone. Et on va pouvoir ensuite utiliser ce NFT comme un asset dans la DeFi, donc la finance décentralisée, et l'utiliser comme collatéral, par exemple, etc. Donc, c'est deux beaux sujets. C'est un sujet crypto Web3 qui nous attire beaucoup. Et c'est aussi un sujet sur l'offset de crédit carbone, qui est effectivement un des enjeux majeurs des prochaines années. Donc ça a dit deux sujets qui nous intéressent beaucoup. Et on vient de rentrer là récemment dans ce projet, qui est français d'ailleurs. Voilà.
Qui est français, voilà. Caronable. On est d'accord. C-A-R-O-N-A-B-L-E, en direct depuis San Francisco. Il fait quel temps, là? 7h55 du matin. Quel ciel avez-vous face à vous?
Plutôt ciel bleu. Plutôt ciel bleu. San Francisco, c'est généralement soit ciel bleu, soit à folie. Mais plutôt ciel bleu et plutôt agréable. Un peu frais en ce moment. Mais moins qu'à Paris. Je sais qu'à Paris, c'est plutôt de la grisaille en ce moment. Donc, on a un peu de chance ici.
C'est vrai. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu le soleil. Enfin, on l'a un peu aperçu hier après-midi.
J'ai vu ça.
Ouais, on s'est cru en Californie d'un seul coup. Ça n'a pas duré longtemps. En Californie avec 20 degrés de moins. Merci Cyril. Cyril Paglino nous accompagnait pour Shift Capital, donc depuis San Francisco, en direct sur BFM Business. Pauline, ce qui est intéressant de regarder dans la façon dont les cryptos se démocratisent, c'est que non seulement la baisse des cours l'an dernier n'a pas empêché la poursuite de la démocratisation, on a vu toujours plus d'utilisateurs crypto, ce que nous disent un certain nombre d'indicateurs, mais la façon dont les gens investissent en crypto, alors là, il y a beaucoup à redire. On est loin de vouloir véritablement se renseigner sur les avantages, les inconvénients, le potentiel de telle ou telle crypto. Les gens, ils vont Les gens, ils font à l'aveugle, en fait.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un principe qui s'appelle Dior pour Do Your Own Research dans l'univers crypto et qui est assez important parce que, voilà, si on veut investir ou acheter telle ou telle crypto-monnaie, il faut se renseigner tout simplement sur le projet, les fondateurs, les fondamentaux. Et il y a une étude, là, qui vient de sortir de la société Bybit qui explique que sur 10 000 investisseurs, donc c'est quand même une grosse étude, et qui explique que quand même 60% des sondés et investisseurs américains ne font pas des recherches de plus de 2 heures, enfin font des recherches de moins de 2 heures, si on peut le dire comme ça, sur des crypto-monnaies avant d'investir. Donc en gros, c'est comme s'ils investissaient totalement au hasard dans cet univers, et ce qui fait relativement peur parce que c'est bien plus que la majorité. Et en fait, en guise de d'éléments qu'ils peuvent utiliser, ça va être les réseaux sociaux ou en tout cas des sites qui sont pas forcément très fiables, même les sites même de ces projets de crypto-monnaie. Et comme on le sait très bien dans l'univers crypto, des NFT, du Web3, etc., il y a certains projets qui vont attirer le regard très très web, très marketing, très intéressant, et en fait il y a certaines personnes qui vont foncer tête baissée vers des projets, acheter des cryptos, acheter des NFT sans même se renseigner, et c'est quand même assez compliqué après, assez peu rassurant.
Il faut bien sûr toujours bien s'informer avant de choisir d'investir, et n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, puisque tout ça reste quand même très spéculatif, à la hausse ou à la baisse, les deux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Pauline. Et cette newsletter BFM Crypto à découvrir tout à l'heure, où l'on parle de cette, vous nous parlez de cette commission mixte paritaire, la date du 9 février que l'écosystème crypto doit bien inscrire à son agenda. Donc le détail, les explications sur notre newsletter, votre newsletter, 18h, elle est gratuite, chacun peut s'abonner bien sûr. On remercie à nouveau Cyril Paglino qui nous accompagnait depuis The Shift Capital à San Francisco, et Vincent Bois aussi tout à l'heure, il était en direct avec nous depuis IG. Dans un instant, la séance du jour en direct, notre CAC 40 à 37 minutes de la clôture est à peu près stable, toute petite baisse symbolique, 7088 points avant une très très grosse semaine boursière, semaine peut-être décisive. On s'en reparle dans un instant juste après la pause. À tout de suite.